Chapitre 24. Au Clumency. Il apparut que Créature s'était cachée dans le grenier. Sirius raconta qu'il l'avait trouvée là-haut, couvert de poussière, à la recherche d'autres reliques de la famille Black à cacher dans son réduit. Sirius se contenta de cette explication, mais Harry ne pouvait s'empêcher d'éprouver un certain malaise. Lorsqu'il se montra à nouveau, Créature paraissait de meilleure humeur. Ses marmonnements acerbes s'étaient un peu calmés et il obéissait aux ordres plus docilement qu'à l'ordinaire. Une ou deux fois, Harry surprit l'elfe de maison à le fixer d'un air avide, mais il se hâtait de détourner le regard lorsqu'il s'apercevait que Harry l'avait remarqué. Harry ne parla pas de ses vagues soupçons à Sirius, dont la joie se dissipait rapidement maintenant que Noël était terminé. À mesure que la date de leur retour à Poudlard approchait, il devenait de plus en plus enclin à ce que Mrs. Weasley appelait des crises de grognerie, pendant lesquelles il devenait taciturne et grincheux et se retirait souvent pendant plusieurs heures d'affilée dans la chambre de Buck. Sa morosité imprégnait toute la maison, suintant sous les portes comme un gaz nocif qui finissait par contaminer tout le monde. Harry ne voulait pas laisser une nouvelle fois Sirius en la seule compagnie de Créature. En fait, pour la première fois de sa vie, il n'avait aucune hâte de rentrer à Poudlard. Retourner à l'école signifiait subir à nouveau la tyrannie de Dolores Ombrage, qui s'était sûrement arrangée pour faire passer une douzaine de nouveaux décrets en leur absence. Il ne pouvait plus espérer jouer au Quidditch maintenant qu'il avait été exclu. Il y avait tout à parier que le fardeau des devoirs s'alourdirait à mesure qu'approcheraient les examens, et Dumbledore restait aussi distant que d'habitude. S'il n'y avait pas eu la D, Harry aurait peut-être supplié Sirius de l'autoriser à abandonner Poudlard pour rester Square Grimmauld. Enfin, le tout dernier jour des vacances, il se passa quelque chose qui remplit Harry d'une véritable terreur à l'idée de retourner à l'école.
« Harry, mon chéri !»
dit Mrs. Weasley en passant la tête par la porte entrebâillée de la chambre. Ron et Harry jouaient aux échecs version sorcier sous l'œil d'Hermione, Ginny et Patanron.
Pourrais-tu descendre dans la cuisine? Le professeur Rogue voudrait te parler. »
Harry n'enregistra pas tout de suite ce qu'elle avait dit. L'une de ses tours était engagée dans un violent combat avec un pion de Ron et il l'encourageait avec enthousiasme à attaquer.
« Vas-y, écrase-le! Écrase-le, je te dis! Ce n'est qu'un pion, espèce d'idiote! Excusez-moi, Mrs. Weasley, vous m'avez dit quelque chose ?»«
Le professeur Rogue, mon chéri, dans la cuisine, il a quelque chose à te dire. »
Harry resta muet d'horreur, la mâchoire pendante. Il regarda successivement Ron, Hermione et Ginny, qui étaient eux aussi bouche bée. Patanron, qu'Hermione avait eu du mal à retenir au cours du dernier quart d'heure, en profita pour sauter joyeusement sur l'échiquier et faire fuir les pièces qui coururent se mettre à l'abri en poussant des hurlements aigus.
« Rogue ?» dit Harry, l'air interdit. « Le professeur Rogue, mon chéri, » répondit Mrs. Weasley sur un ton de reproche. « Viens vite ! Il a dit qu'il ne pouvait pas attendre très longtemps. »«
Qu'est-ce qu'il te veut ?»
s'étonna Ron déconcerté tandis que Mrs. Weasley refermait la porte.
« Tu n'as pourtant rien fait ?»«
Non ?» s'indigna Harry, en se triturant les méninges pour chercher une raison qui aurait pu inciter Rogue à le poursuivre jusqu'au Square Grimmauld. Peut-être que son dernier devoir lui avait valu un thé comme troll. Une ou deux minutes plus tard, il poussa la porte de la cuisine et vit Sirius et Rogue assis à la table, lançant tous deux des regards noirs dans des directions opposées. Il régnait un silence lourd d'hostilité réciproque. Une lettre était posée devant Sirius.
« dit Harry pour signaler sa présence.
Rogue tourna les yeux vers lui, le visage encadré de deux rideaux de cheveux noirs et gras.
« Asseyez-vous, Potter. »«
Tu sais... »
dit Sirius d'une voix forte en se balançant sur les pieds arrière de sa chaise, le visage levé vers le plafond.
J'aimerais bien que tu évites de donner des ordres quand tu es ici. C'est ma maison, je te le rappelle.
Une horrible rougeur se diffusa sur le visage blanchâtre de Rogue. Harry s'assit sur une chaise à côté de Sirius, face au professeur de potions.
J'étais censé vous voir seul, Potter,
dit celui-ci avec son habituel rictus méprisant.
« Mais Black... »«
Je suis son parrain !»
rappela Sirius en parlant plus fort que jamais.
« Je suis venu ici sur ordre de Dumbledore, »
répliqua Rogue, dont l'irritation rendait par contraste la voix plus assourdie.
Mais reste donc avec nous, Black. Je sais que tu aimes bien participer.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Répliqua Sirius en laissant sa chaise retomber sur ses quatre pieds avec un grand bruit.
Tout simplement que tu dois te sentir, disons, frustré de ne rien pouvoir faire d'utile.
Rogue accentua légèrement le mot « pour l'ordre ». Ce fut au tour de Sirius de rougir. Rogue retroussa la lèvre dans une expression de triomphe et se tourna vers Harry.
« Le directeur m'a chargé de vous dire, Potter, qu'il souhaite vous voir prendre des cours d'occlumensie dès le début de ce trimestre. »«
Des cours de quoi ?» demanda Harry interloqué. Le rictus de Rogue s'accentua.
« D'occlumensie, Potter, la défense magique de l'esprit contre les tentatives de pénétration extérieure. » Une branche obscure de la magie, mais très utile. »
Le cœur de Harry se mit à battre de plus en plus vite. Défense contre les tentatives de pénétration extérieure. Mais il n'était pas possédé, tout le monde était tombé d'accord là-dessus. « Et pourquoi faut-il que j'étudie l'occlu-chose » balbutia-t-il.
« Parce que le directeur pense que c'est une bonne idée, » répondit Rogue d'une voix doucereuse. « Vous aurez des cours privés une fois par semaine, mais vous n'en parlerez à personne et surtout pas à Dolores Ombrage, compris ?»«
Oui, » assura Harry. « Et qui me donnera ces cours ?»
Rogue haussa un sourcil. « Moi, » dit-il.
Harry eut l'horrible sensation que ses entrailles fondaient comme du métal en fusion. « Des cours supplémentaires avec Rogue ? Qu'avait-il pu faire pour mériter ça ?» Il se tourna précipitamment vers Sirius en quête de réconfort.
« Et pourquoi Dumbledore ne pourrait-il pas donner lui-même ses cours à Harry ?» demanda Sirius d'un ton agressif. « Pourquoi faut-il que ce soit toi ?»«
Sans doute parce que c'est un privilège du directeur de déléguer à ses collaborateurs les tâches les moins plaisantes, »
répondit Rogue d'une voix veloutée.
« Je peux t'assurer que je ne l'ai pas supplié de me confier ce travail. »
Il se leva.
« Je vous attends lundi soir à 6 heures, Potter, dans mon bureau. » « Si quelqu'un vous pose la question, vous répondrez que vous prenez des leçons de rattrapage en potions. Quiconque vous aura vu à l'un de mes cours ne saurait nier que vous en ayez grand besoin. »
Il tourna les talons et se dirigea vers la porte, sa cape noire tourbillonnant dans son sillage.
« Attends un peu !»
dit Sirius en se redressant sur sa chaise. Rogue fit volte-face toujours méprisant.
« Je suis assez pressé, Black. Contrairement à toi, je ne dispose pas de loisirs illimités. »
« Dans ce cas, je viendrai droit au fait !»
dit Sirius qui se leva à son tour. Il était plus grand que Rogue et Harry vit ce dernier serrer le poing dans une poche de sa cape sur ce qui était certainement sa baguette magique.
« Si jamais j'apprends que tu te sers de ces cours d'occlumensie, pour faire passer un mauvais moment à Harry, tu auras affaire à moi.
Comme c'est touchant !» ricana Rogue. « Mais tu as sûrement remarqué que Potter ressemble beaucoup à son père. »«
En effet !» dit Sirius avec fierté.
« Dans ce cas, tu sais déjà qu'il est si arrogant que toute critique rebondit sur lui sans l'atteindre. »
reprit Rogue d'une voix onctueuse. Sirius écarta brutalement sa chaise et s'avança vers Rogue à grands pas en sortant sa baguette magique. D'un geste vif, Rogue tira également la sienne de sa cape. Ils se postèrent face à face. Sirius le teint livide, Rogue le regard calculateur, ses yeux allant sans cesse du visage de son adversaire à l'extrémité de sa baguette.
« Sirius !» s'écria Harry, mais il ne semblait pas l'entendre. « Je t'ai prévenu, Servilus !»
dit Sirius, son visage à 30 centimètres de celui de Rogue.
« Peu m'importe que Dumbledore pense que tu t'es repenti, moi je sais très bien ce qu'il en est. »
« Dans ce cas... « Pourquoi ne pas le lui dire ?»
murmura Rogue.
« À moins que tu aies peur qu'il ne prenne pas très au sérieux les conseils d'un homme qui s'est caché pendant 6 mois dans la maison de sa mère. »«
Dis-moi donc, comment va Lucius Malfoy ces temps-ci ? Il doit être ravi que son petit caniche travaille à Poudlard, non ?»«
En parlant de chien, »
reprit Rogue de sa voix doucereuse.
« Sais-tu que Lucius Malfoy t'a reconnu la dernière fois que tu as risqué une petite promenade au dehors ? Très habile, Black, de te montrer sur un quai de gare où tu ne risquais rien. Ça t'a donné une excuse en acier trempé pour ne plus avoir à quitter ta petite cachette à l'avenir, n'est-ce pas ?
Sirius leva sa baguette.
« Non ! » hurla Harry en sautant par-dessus la table pour essayer de se placer entre eux. « Sirius, arrête ! » !»«
Tu me traites de lâche ! » rugit Sirius. Il voulut écarter Harry, mais celui-ci refusa de bouger.
« Je pense que c'est ça, en effet !»
répondit Rogue.
« Harry, va-t'en de là !» gronda Sirius en le poussant de sa main libre.
Au même moment, la porte s'ouvrit et la famille Weasley, accompagnée d'Hermione, entra dans la cuisine. Ils paraissaient tous très heureux. Monsieur Weasley marchant fièrement au milieu du groupe, vêtu d'un pyjama sur lequel il avait passé un imperméable.
« Guéri !» annonça-t-il d'une voix claironnante. « Complètement guéri !»
Tout le monde resta alors cloué sur place en voyant la scène qui semblait elle-même figée en pleine action. Sirius et Rogue se tournèrent vers la porte, leurs baguettes magiques toujours pointées l'un sur l'autre. Harry, immobile au milieu, un bras tendu vers chacun d'eux pour essayer de les séparer.
« Par la barbe de Merlin !»
dit M. Weasley, son sourire s'effaçant de son visage.
« Mais qu'est-ce qui se passe ici ?»
Sirius et Rogue abaissèrent leurs baguettes en même temps. Harry les regarda alternativement. Tous deux affichaient une expression de profond mépris, mais l'irruption inattendue de tant de témoins semblait les avoir ramenés à la raison. Rogue remit sa baguette dans sa poche et traversa la cuisine à grandes enjambées en passant devant les Weasley sans prononcer un mot. Arrivé devant la porte, il lança un coup d'œil derrière lui.
« Lundi soir, 6 heures, Potter !»
Puis il disparut. Sirius continua de fixer la porte d'un regard furieux, sa baguette magique pendant au bout de son bras.
« Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda à nouveau M. Weasley.
« Rien, Arthur !» répondit Sirius, la respiration haletante, comme s'il venait de parcourir une longue distance au pas de course.
« Une simple petite conversation amicale entre deux anciens camarades d'école !»
Au prix d'un effort qui paraissait considérable, il parvint à sourire.
« Alors, tu es guéri. Ça, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. »«
N'est-ce pas ?»
dit Mrs. Weasley en faisant asseoir son mari sur une chaise. « Le guérisseur Smedwick a finalement exercé sa magie. Il a trouvé un antidote au venin de ce serpent et Arthur a appris qu'il ne fallait pas bricoler avec la médecine moldue, n'est-ce pas, mon chéri ?»
ajouta-t-elle d'un ton menaçant.
« Oui, oui, Molly chérie, »
répondit M. Weasley d'une voix penaude. Le dîner aurait pu être plus joyeux pour saluer le retour de M. Weasley. Harry voyait Sirius faire des efforts en ce sens. Il se forçait à rire bruyamment aux plaisanteries de Fred et de George où veillait à remplir les assiettes des convives. Mais dès qu'il cessait d'être occupé, il redevenait maussade, soucieux. Harry était séparé de lui par Mondingus et Folœil, qui étaient venus féliciter M. Weasley de sa guérison. Il aurait voulu parler à Sirius, lui dire qu'il ne devait pas prêter attention aux réflexions de Rogue, que celui-ci cherchait à le provoquer délibérément et que personne ne pensait qu'il était un lâche sous prétexte qu'il restait enfermé Square Grimord, conformément aux instructions de Dumbledore. Mais Harry n'eut pas l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, devant le visage menaçant de Sirius, il se demandait s'il aurait osé amener la conversation sur ce sujet. En revanche, il raconta à mi-voix à Ron et à Hermione qu'il devrait désormais prendre des cours d'occlumency avec Rogue.
« Dumbledore veut éviter de rêver à nouveau de Voldemort, »
dit aussitôt Hermione.
« J'imagine que ça ne te manquera pas. Des cours particuliers avec Rogue ! Oh ! J'aimerais encore mieux faire des cauchemars !»
commenta Ron effaré. Il devait retourner à Poudlard le jour suivant par le magicobus escorté de Tonk et de Lupin. Ces derniers prenaient leur petit déjeuner lorsque Harry, Ron et Hermione descendirent dans la cuisine le lendemain matin. Les adultes présents semblaient absorbés dans une conversation à voix basse. Dès que Harry eut ouvert la porte, ils se tournèrent brusquement vers lui et se turent aussitôt. Après avoir avalé un rapide petit déjeuner, ils s'habillèrent de blousons et d'écharpes pour affronter le froid grisâtre de cette matinée de janvier. Harry éprouvait une désagréable sensation de pression dans la poitrine. Il ne voulait pas quitter Sirius. Ce départ lui laissait une mauvaise impression. Il ne savait pas quand il se reverrait et il se sentait obligé de dire quelque chose à son parrain pour le retenir de prendre des initiatives stupides. Il craignait que les accusations de lâcheté lancées par Rogue l'aient si profondément blessé qu'il lui vienne dès maintenant l'idée d'entreprendre une expédition hasardeuse hors du Square Grimord.
Mais avant qu'il ait eu le temps de songer à ce qu'il allait dire, Sirius lui fit signe d'approcher.
« Tu vas prendre ceci, » murmura-t-il en lui mettant dans la main un paquet mal emballé de la taille d'un livre de poche.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harry.
« Un moyen de me faire savoir si Rogue se montre trop dur avec toi. Non, 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 ne l'ouvre pas d'ici. »
Sirius jeta un coup d'œil méfiant à Mrs. Weasley qui essayait de convaincre les jumeaux de mettre des moufles tricotées main.
« Je doute fort que Molly m'approuve, mais je veux que tu t'en serves si tu as besoin de moi, d'accord ?»«
Ok, » répondit Harry en glissant le paquet dans la poche intérieure de son blouson. Il n'avait aucune idée de ce que c'était, mais il savait que de toute façon, il ne s'en servirait pas. Ce ne serait pas lui, Harry, qui inciterait Sirius à quitter la sécurité de son refuge, quelle que soit la façon dont Rogue le traiterait pendant ses leçons d'enclumencie.
« Bon, allons-y, » dit Sirius.
Avec un sombre sourire, il donna une tape sur l'épaule de Harry, et avant que celui-ci ait pu dire quelque chose, ils montèrent les marches qui menaient dans le hall et s'arrêtèrent entourés par les Weasley devant la porte d'entrée chargée de chaînes et de verrous.
« Au revoir, Harry. Prends bien soin de toi, »
dit Mrs. Weasley en le serrant contre elle.
« À bientôt, Harry, et continue à surveiller les serpents pour moi, hein ?»
dit Monsieur Weasley d'un ton cordial en lui serrant la main.
« Oui, d'accord, »
répondit Harry l'air hagard. C'était sa dernière chance de recommander à Sirius d'être prudent. Il se retourna, regarda son parrain dans les yeux et ouvrit la bouche pour parler, mais avant d'avoir pu prononcer le moindre mot, Sirius le serra brièvement contre lui et lança d'un ton bourru.
« Veille bien sur toi !»
Un instant plus tard, Harry se trouva emporté dans l'atmosphère glacée de l'hiver, poussé vers les marches du perron par Tonk, déguisé ce jour-là en une grande femme aux cheveux gris fer, toute vêtue de tweed. La porte du numéro 12 claqua derrière eux et ils suivirent Lupin au bas des marches. Quand il eut posé le pied sur le trottoir, Harry regarda par-dessus son épaule. La maison du numéro 12 rétrécissait rapidement, tandis que celle qui l'encadrait s'élargissait en l'écrasant de plus en plus. En un clin d'œil, elle avait disparu.
« Venez, plus vite on sera dans le bus, mieux ça vaudra, » dit Tonk.
Harry remarqua une lueur d'inquiétude dans ses yeux lorsqu'elle jeta un regard autour de la place. Lupin tendit brusquement son bras droit.
« Bang !» Un autobus à double impérial, d'une éclatante couleur violette, venait de surgir de nulle part, évitant de peu le réverbère le plus proche qui fit un bond en arrière pour libérer le passage. Un jeune homme, boutonneux, aux oreilles en chou-fleur, sauta à terre.
« Bienvenue à bord du... »
commença-t-il.
« Oui, oui, c'est ça, on connaît, merci, »
l'interrompit Tonk.
« Allez, vite monter !»
Elle poussa Harry vers le marchepied devant le contrôleur qui le regarda avec des yeux ronds.
« Oh, mais c'est Harry !»«
Si jamais tu prononces son nom, je te jette un sort qui te plongera dans un oubli définitif, »
menaça Tonk en poussant à présent Ginny et Hermione à bord du bus.
« J'ai toujours voulu monter dans ce truc-là !»
dit Ron d'un ton joyeux. Il avait rejoint Harry et regardait autour de lui d'un air ravi. La dernière fois que Harry avait pris le Magicobus, il faisait nuit et il était rempli de lits en cuivre. Aujourd'hui, la matinée venait tout juste de commencer et les lits avaient fait place à un entassement de chaises et de fauteuils dépareillés disposés au hasard autour des fenêtres. Des sièges étaient tombés lorsque le bus s'était brutalement arrêté Square Grimord, précipitant sur le plancher des sorcières et des sorciers qui se relevaient en grommelant. Un sac à provisions avait glissé sur toute la longueur du bus, semant sur son passage un mélange peu ragoûtant d'œufs de grenouille, de cafards et de biscuits fourrés.
« Il va falloir qu'on se sépare en deux groupes, »
dit vivement Tonk, qui cherchait des yeux des sièges inoccupés.
« Fred, George et Ginny, allez vous asseoir là-bas au fond. Remus restera avec vous. »
Elle emmena ensuite Harry, Ron et Hermione tout en haut du bus, où ils trouvèrent deux chaises vides à l'avant et deux autres à l'arrière.
Stan Rockade, le contrôleur, suivit avidement Harry et Ron, qui allèrent s'installer à l'arrière. Les autres passagers regardèrent passer Harry, et lorsqu'il s'assit, il vit les têtes se tourner à nouveau vers l'avant. Harry et Ron tendirent six mornilles à Stan, tandis que le bus repartait en oscillant dangereusement. Dans un grondement, il tourna autour du square Grimord, montant à plusieurs reprises sur le trottoir, puis avec un nouveau bang impressionnant, ils furent tous projetés en arrière. La chaise de Ron bascula,
et Coxigru, qui était sur ses genoux, s'échappa de sa cage en lançant de petits ululements frénétiques et volta jusqu'à l'avant où il vint se poser sur l'épaule d'Hermione. Harry, qui avait échappé de peu à la chute en s'accrochant à un chandelier fixé à la cloison, regarda par la fenêtre. Il fonçait à présent sur ce qui semblait une autoroute.
« Oh, on est tout près de Birmingham !»
annonça joyeusement Stan, répondant à la question muette de Harry pendant que Ron se relevait tant bien que mal.
« Alors, ça va comme tu veux, Harry ? J'ai vu ton nom dans le journal plein de fois cet été, mais on peut pas dire qu'ils ont été très gentils avec toi. Hein. J'ai dit à Erne, moi, il m'a pas semblé dingue du tout quand on l'a vu. J'ai dit, et c'est bien une preuve ça, non ? Hein ?»
Il leur rendit leur ticket et continua de fixer Harry d'un regard fasciné. Apparemment, Stan ne s'inquiétait pas de la folie des gens du moment qu'ils étaient suffisamment célèbres pour qu'on parle d'eux dans les journaux. Le magicobus se pencha d'une manière alarmante en doublant une file de voitures du mauvais côté. Harry jeta un regard vers l'avant et vit Hermione se cacher les yeux, Coxigru se balançant joyeusement sur son épaule.
« Bang ! Les sièges glissèrent à nouveau en arrière, tandis que le magicobus sautait de l'autoroute de Birmingham sur une petite route de campagne au virage en épingle à cheveux. Des deux côtés de la chaussée, des haies s'écartaient précipitamment lorsque le bus montait sur le talus. Ils passèrent ensuite dans la rue principale d'une petite ville animée, puis sur un viaduc entouré de hautes collines, avant de s'engager sur une route balayée par le vent entre de hauts immeubles d'habitation. À chaque changement de décor, un bang sonore retentissait.
« J'ai changé d'avis !» marmonna Ron en se relevant après être tombé par terre pour la sixième fois. « Je veux plus jamais mettre les pieds dans ce machin. »
« Et le prochain arrêt, c'est Poudlard !»
dit Stan d'un ton réjoui en oscillant vers eux.
« La bonne femme qui a monté avec vous, celle qui commande, elle nous a donné un petit pourboire pour qu'on vous fasse passer avant les autres. On va simplement déposer Madame du Marais.
À l'étage inférieur, on entendit un haut-le-corps suivi d'un horrible gargouillement.
« Elle est pas bien en forme !»
Quelques minutes plus tard, le magicobus s'arrêta dans un crissement de pneus devant un petit pub qui se tassa un peu pour éviter la collision. Ils entendirent Stan aider la malheureuse Madame Dumarais à descendre sous les murmures de soulagement des autres passagers. Le bus repartit et
bang ! Il roulait à présent dans la grande rue enneigée de Préaulard.
Harry aperçut l'enseigne de la tête de sanglier qui se balançait au vent. Des flocons de neige s'écrasaient contre l'immense pare-brise à l'avant du bus. Enfin, ils s'arrêtèrent devant le portail de Poudlard. Lupin et Tonks les aidèrent à sortir leurs bagages avant de descendre leur dire au revoir. Harry jeta un coup d'œil aux trois étages du magicobus et vit que tous les passagers les observaient, le nez collé aux vitres.
« Vous serez en sécurité dès que vous aurez franchi l'enceinte de Poudlard, » assura Tonks en scrutant la route déserte. « Bon trimestre !»
« Prenez bien soin de vous !»
dit Lupin, qui serra la main de tout le monde en terminant par celle de Harry.
« Et toi, écoute-moi bien !»
ajouta-t-il en baissant la voix pendant que les autres prolongeaient leurs effusions avec Tonks.
« Je sais que tu n'aimes pas Rogue, mais c'est un excellent occlument, et nous voulons tous, y compris Sirius, que tu apprennes à te protéger. Alors, travaille dur, hein, d'accord ?»«
Oui, d'accord, » répondit Harry d'un ton lourd, en regardant le visage prématurément ridé de Lupin. « À bientôt !» Harry, Hermione et les Weasley remontèrent à grand-peine l'allée glissante qui menait au château, traînant derrière eux leurs énormes valises. Hermione parlait déjà de tricoter quelques chapeaux d'elfes avant d'aller se coucher. Lorsqu'ils arrivèrent devant les grandes portes de chêne, Harry jeta un regard en arrière. Le magicobus était déjà reparti, et en pensant à ce qu'il attendait le lendemain soir, il aurait presque souhaité être resté à bord. Harry passa la plus grande partie du lendemain à redouter ce qui allait se produire le soir. Le double cours de potions du matin ne fit rien pour dissiper ses appréhensions. Rogue s'y montra aussi désagréable qu'à l'ordinaire. Les questions des membres de l'AD, qu'il abordait sans cesse dans les couloirs entre les classes, pour lui demander s'il y aurait une réunion ce soir-là, n'améliorèrent pas son humeur. « Je vous ferai savoir de la manière habituelle la date de la prochaine séance, » répétait-il sans relâche. « Mais ce soir, c'est impossible, je dois prendre des cours de rattrapage en potion. »«
Rattrapage en potion ? »
s'exclama dédaigneusement Zacharias Smith, qui avait coincé Harry dans le hall d'entrée après le déjeuner.
« Tu dois être vraiment nul ! Rogue ne donne jamais de cours particulier !»
Smith s'éloigna d'un pas allègre qui avait quelque chose de particulièrement agaçant. Ron le regarda partir, l'air furieux.
« Tu veux que de lui jette un sort ?»«
C'est pas encore de faire, hein, Diffy !» dit-il en sortant sa baguette magique qu'il pointa entre les omoplates de Smith.
« Laisse tomber. C'est ce que tout le monde va penser, non ? Que je suis vraiment stup... »«
Bonjour, Harry !»
dit une voix derrière lui.
Il se retourna et vit Cho.
« Oh !»
dit-il en sentant son estomac faire un bond.
« Salut ! On se retrouve à la bibliothèque, Harry ?»
dit fermement Hermione qui prit Ron par le bras et l'entraîna vers l'escalier de marbre.
« Tu as passé un bon Noël ?»
demanda Cho.
« Oui, pas mal, » répondit Harry.
« Le mien était plutôt calme. »
Pour une raison qu'il ignorait, Cho paraissait un peu gêné.
«
poursuivit-elle.
« Il y a une autre sortie après Oulard le mois prochain, tu as vu ?»«
Quoi ?
Ah non ? J'ai pas encore regardé le tableau d'affichage depuis mon retour. »
C'est le jour de la Saint-Valentin.
Ah, très bien, dit Harry en se demandant pourquoi elle lui annonçait cela.
J'imagine que tu veux...
Seulement si tu veux aussi,
s'empressa-t-elle d'ajouter. Harry la regarda d'un air étonné. Il s'apprêtait à dire...
J'imagine que tu veux savoir la date de la prochaine réunion. Mais sa réponse ne semblait pas convenir.
Dit-il. « Oh, c'est pas grave, hein, si tu veux pas, »
dit Cho, l'air mortifié.
« T'inquiète pas. Bon, un de ces jours. »
Et elle s'en alla. Harry la regarda s'éloigner en faisant travailler frénétiquement ses méninges. Et
tout à coup, les rouages se mirent en place.
« Cho ! Hé ! Cho !» Il courut après elle et la rattrapa au milieu de l'escalier de marbre.
« Tu veux sortir avec moi après Oulard le jour de la Saint-Valentin ? Oh oui !»
répondit-elle avec un grand sourire, en devenant écarlate.
« Bon, ben, alors, c'est d'accord, »
dit Harry. Avec le sentiment qu'en définitive, cette journée ne serait pas complètement perdue, il bondit littéralement jusqu'à la bibliothèque pour aller chercher Ron et Hermione avant leur cours de l'après-midi. À 6 heures ce soir-là, cependant, même le bien-être qu'il éprouvait après avoir invité avec succès Cho à l'accompagner après Oulard ne parvenait pas à alléger la menace qui pesait sur lui avec de plus en plus d'intensité à mesure qu'il approchait du bureau de Rogue. Lorsqu'il arriva devant la porte, il s'arrêta quelques instants en songeant qu'il aurait préféré se retrouver n'importe où ailleurs ou presque. Puis il prit une profonde inspiration, frappa et entra. Les murs de la pièce, plongés dans la pénombre, étaient recouverts d'étagères surchargées de centaines de bocaux dans lesquels de petits morceaux visqueux d'animaux ou de plantes flottaient dans des potions de diverses couleurs. Au fond de la pièce se trouvait l'armoire que Rogue avait un jour accusé Harry, non sans raison, d'avoir fouillé pour y voler des ingrédients. L'attention de Harry fut attirée par une bassine de pierre peu profonde, gravée de runes et de symboles posée sur le bureau à la lueur des chandelles. Harry la reconnut tout de suite. C'était la pancine de Dumbledore. Il se demanda ce qu'elle pouvait bien faire là, et sursauta lorsque la voix glacée de Rogue s'éleva de l'ombre.
« Fermez la porte derrière vous, Potter !»
Harry obéit en éprouvant l'horrible impression qu'il s'emprisonnait lui-même. Lorsqu'il se retourna, Rogue était apparu dans la lumière et montrait silencieusement la chaise qui faisait face à son bureau. Harry s'assit, Rogue également, ses yeux noirs et froids fixés sur lui, une expression d'antipathie gravée dans chaque ride de son visage.
« Bien, Potter, vous savez pourquoi vous êtes ici, » dit-il. « Le directeur m'a demandé de vous enseigner l'occlumency. » J'espère simplement que vous manifesterez de meilleures dispositions dans l'étude de cette matière que dans celle des potions.
Très bien, dit sobrement Harry.
Ceci n'est peut-être pas un cours ordinaire, Potter,
reprit Rogue en plissant les yeux d'un air mauvais,
mais je reste votre professeur et vous êtes prié par conséquent de toujours m'appeler professeur ou monsieur.
« Oui, monsieur, »
répondit Harry.
Bien. L'occlumency. Comme je vous l'ai déjà dit dans la cuisine de votre cher parrain, cette branche de la magie a pour objet de fermer l'esprit aux intrusions et influences extérieures.
Et pourquoi le professeur Dumbledore pense-t-il que j'en ai besoin, monsieur ? Interrogea Harry, les yeux fixés sur ceux de Rogue, en se demandant s'il allait répondre. Rogue soutint son regard pendant un moment, puis déclara d'un ton méprisant.
« Même vous, vous auriez pu le comprendre, Potter. Le Seigneur des Ténèbres est très habile en matière de légilimancie. »«
De quoi, monsieur ?»«
Il s'agit de la faculté d'extraire de l'esprit d'autrui des sentiments ou des souvenirs. »«
Vous voulez dire qu'il arrive à lire dans les pensées ?» dit aussitôt Harry qui voyait ses pires craintes confirmées.
« Vous êtes totalement dépourvu de subtilité, Potter, » répliqua Rogue, ses yeux noirs étincelants. « Vous ne comprenez pas les nuances. C'est l'un des défauts qui font de vous un si lamentable préparateur de potions. »
Rogue resta un moment silencieux, tout à son plaisir d'insulter Harry. Puis il poursuivit.
« Seuls les moldus parle de lire dans les pensées. Les pensées ne sont pas un livre qu'on ouvre et qu'on peut feuilleter tout à loisir. Elles ne sont pas gravées à l'intérieur du crâne, à la disposition du premier intrus qui passera par là. L'esprit est une chose complexe qui comporte de nombreuses couches successives, Potter, chez la plupart des gens, en tout cas.
Il eut un petit rire ironique.
Il est vrai, cependant, que ceux qui maîtrisent la légilimancie sont capables, dans certaines conditions, de plonger dans l'esprit de leur victime et d'interpréter correctement ce qu'ils y découvrent. Le maître des ténèbres, par exemple, c'est toujours lorsque quelqu'un lui ment. Seuls ceux qui pratiquent l'occlumencie arrivent à interdire tout accès aux sentiments ou aux souvenirs qui contredisent leurs mensonges et peuvent ainsi proférer de fausses affirmations en sa présence sans qu'ils parviennent à les détecter.
Rogue pouvait bien raconter ce qu'il voulait. Harry ne voyait aucune différence entre la légilimancie et le fait de lire dans les pensées, et tout cela ne lui disait rien qui vaille. Alors, il pourrait savoir ce que nous pensons en ce moment même, monsieur.
Le Seigneur des Ténèbres se trouve très loin d'ici, et les murs ainsi que le parc de Poudlard sont protégés par de très anciens charmes et sortilèges qui assurent la sécurité physique et mentale de ceux qui y résident, dit Rogue. Le temps et l'espace ont une grande importance en matière de magie, Potter. Le contact visuel est souvent essentiel dans l'exercice de la légilimancie.
« Dans ce cas, pourquoi dois-je apprendre l'occlumency ?» Rogue dévisagea Harry en caressant ses lèvres d'un doigt long et fin.
« Les règles habituelles ne paraissent pas s'appliquer à vous, Potter. Le maléfice qui a failli vous tuer semble avoir établi une sorte de connexion entre vous et le Seigneur des Ténèbres. » L'observation laisse penser qu'à certains moments, lorsque votre esprit est le plus détendu et le plus vulnérable, quand vous êtes endormi, par exemple, vous partagez ses pensées, ses émotions. Le directeur estime qu'il n'est pas souhaitable que cette situation se prolonge. Il désire donc que je vous apprenne à interdire l'accès de votre esprit au Seigneur des Ténèbres.
Harry sentait à nouveau son cœur battre à tout rompre. Tout cela n'était pas très logique. « Mais pourquoi le professeur Dumbledore veut-il y mettre fin ?» demanda abruptement Harry. « Je ne peux pas dire que ça me plaise beaucoup, mais c'est quand même utile, non ? J'ai vu ce serpent attaquer M. Weasley. Si je n'avais rien vu du tout, le professeur Dumbledore n'aurait pas réussi à le sauver. Vous ne croyez pas, monsieur ?» Rogue observa Harry pendant quelques instants, caressant toujours ses lèvres d'un doigt. Lorsqu'il reprit la parole, il s'exprima lentement, posément, comme s'il pesait chaque mot.
Il apparaît que le Seigneur des Ténèbres n'a pris conscience de cette connexion entre vous et lui que très récemment. Jusqu'alors, il semble que vous éprouviez ses émotions et que vous partagiez ses pensées sans qu'il en ait connaissance. Cependant, la vision que vous avez eue peu avant Noël...
Celle avec le serpent et M. Wesley ?
Ne m'interrompez pas, Potter,
lança Rogue d'une voix menaçante.
Comme je le disais, la vision que vous avez eue peu avant Noël a représenté une intrusion si puissante dans les pensées du Seigneur des Ténèbres.
J'étais dans la tête du serpent, pas dans la sienne.
Je croyais vous avoir dit de ne pas m'interrompre, Potter.
Mais Harry se moquait bien de la colère de Rogue. Au moins, il abordait enfin le fond de la question. Il s'était avancé sur sa chaise à tel point que, sans s'en rendre compte, il était à présent perché tout au bord, aussi tendu que s'il s'apprêtait à s'envoler.
« Comment se fait-il que j'ai vu la scène à travers l'œil du serpent, si ce sont les pensées de Voldemort que je partage ?»«
Ne prononcez pas le nom du Seigneur des Ténèbres !»
vociféra Rogue. Il y eut un terrible silence. Tous deux se fusillèrent du regard par-dessus la pancine.
« Le professeur Dumbledore prononce bien son nom, lui ?»
dit Harry à mi-voix.
« Dumbledore est un sorcier au pouvoir extrêmement puissant, »
marmonna Rogue.
« Lui ne craint peut-être pas de l'appeler par son nom, mais nous... »
Il massa son avant-bras gauche, d'un geste apparemment machinal à l'endroit où Harry savait qu'était gravée dans sa peau la marque des ténèbres. « Je voulais simplement savoir... » recommença Harry en se forçant à reprendre une voix polie.
« Pourquoi ?»«
Il semble que vous vous soyez trouvé dans la tête du serpent parce que c'était là qu'était le Seigneur des Ténèbres à ce moment précis, » gronda Rogue. « Il avait pris possession du reptile et c'est pourquoi vous avez rêvé que vous étiez à l'intérieur.
Et lui, il s'est rendu compte que j'étais là. »«
Apparemment, oui, »
répondit Rogue avec froideur.
« Comment le savez-vous ? »
demanda aussitôt Harry. « Est-ce que le professeur Dumbledore l'a simplement deviné ou... »«
Je vous ai déjà dit, »
l'interrompit Rogue, raide dans son fauteuil défente à la place des yeux,
« de m'appeler monsieur. »«
Oui, monsieur, » répondit Harry, agacé. « Mais comment savez-vous ? » ?»«
Il suffit que nous sachions !»
répliqua Rogue d'un ton autoritaire.
« Le point important, c'est que le Seigneur des Ténèbres sait maintenant que vous avez accès à ses pensées et à ses émotions. Il en a déduit que le processus pouvait sans doute s'inverser, c'est-à-dire que lui aussi avait la possibilité d'accéder à vos pensées et à vos émotions. »
« Et il pourrait essayer de me faire faire des choses ?»
interrogea Harry.
« Monsieur ? »
s'empressa-t-il d'ajouter.
« Il pourrait. » « En effet, »
dit Rogue d'un ton froid et indifférent,
« ce qui nous ramène à l'occlumencie. »
Il sortit sa baguette magique d'une poche intérieure de sa robe et Harry se raidit sur sa chaise, mais Rogue se contenta de lever sa baguette vers sa tempe et d'en appliquer l'extrémité à la racine de ses cheveux graisseux. Lorsqu'il l'en retira, une substance argentée y était collée et s'étirait entre la tempe et la baguette comme les filaments d'une épaisse toile d'araignée. Il éloigna un peu plus la baguette, le filament se détacha de sa tempe et tomba avec grâce dans la pancine, où il tournoya dans des reflets blancs et argent, ni gazeux ni liquides. À deux reprises, Rogue leva à nouveau la baguette vers sa tempe et déposa la substance argentée dans la bassine de pierre. Puis, sans donner la moindre explication, il prit précautionneusement la pancine, la posa sur une étagère un peu plus loin et revint se placer devant Harry, sa baguette magique pointée sur lui.
« Levez-vous et sortez votre baguette, Potter !»
Harry se leva avec une certaine appréhension. Ils étaient face à face, séparés par le bureau.
« Vous pouvez utiliser votre baguette !» « Essayez de me désarmer ou de vous défendre de la manière qui vous conviendra, » dit Rogue.
« Qu'est-ce que vous allez faire ?»
demanda Harry en regardant avec inquiétude la baguette de Rogue.
« Je vais essayer d'entrer de force dans votre esprit, » répondit Rogue à mi-voix. Nous verrons si vous parvenez à résister. On m'a dit que vous aviez déjà montré certaines aptitudes à combattre le sortilège de l'Imperium. Vous verrez qu'il faut faire appel à des pouvoirs similaires dans le cas présent. Préparez-vous, attention, les gélimins.
Rogue avait attaqué avant que Harry soit prêt, avant même qu'il ait pu concentrer la moindre force mentale. Le décor se mit à flotter autour de lui, puis disparut. Des images se succédaient dans son esprit comme un film surréaliste qui l'occultait tout le reste. Il avait 5 ans. Il regardait Dudley pédaler sur son nouveau vélo, rouge vif, et son cœur débordait d'envie. Il avait 9 ans, et Moller, le bulldog, le poursuivait en l'obligeant à se réfugier en haut d'un arbre, sous les rires de la famille Dursley qui observait la scène depuis la pelouse. Il était assis sous le chapeau magique qui lui disait qu'il pourrait faire de grandes choses à Serpentard. Hermione était allongée sur un lit de l'infirmerie, le visage recouvert d'une épaisse toison noire. Une centaine de détraqueurs s'avançaient vers lui sur la rive du lac. Cho Chang s'approchait sous la branche de Guy. « Non !» dit une voix dans la tête de Harry, tandis que Cho s'approchait de plus en plus. « Il ne doit pas voir ça ! Il ne doit pas voir ça ! C'est ma vie privée !» Il ressentit une douleur aiguë au genou. Le bureau de Rogue était réapparu, et Harry s'aperçut qu'il était tombé par terre. Dans sa chute, l'un de ses genoux s'était cogné douloureusement contre un pied de la table. Il leva les yeux vers Rogue, qui avait abaissé sa baguette, et se massait le poignet à un endroit où la peau était enflée, comme s'il venait de se brûler.
« Vous l'avez fait exprès de lancer un maléfice cuisant ?» demanda Rogue avec froideur.
« Non, » répondit Harry d'un ton amer en se relevant.
« C'est bien ce que je pensais, » dit Rogue avec mépris. « Vous m'avez laissé entrer trop loin, vous avez perdu tout contrôle. »
« Vous avez vu tout ce que j'avais dans la tête ?» s'inquiéta Harry, qui n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse.
« Paraît clair !» dit Rogue, la lèvre retroussée. « À qui appartenait le chien ?»«
À ma tante Marge, » répondit Harry avec une véritable haine pour Rogue.
Pour une première tentative, ce n'était pas aussi lamentable qu'on aurait pu le craindre, » reprit Rogue en levant à nouveau sa baguette. « Vous avez fini par réussir à me bloquer, bien que vous ayez perdu du temps et de l'énergie à crier. Vous devez rester concentré. Repoussez-moi avec votre cerveau, vous n'aurez pas besoin de votre baguette. »«
J'essaye !» dit Harry avec colère. « Mais vous ne m'expliquez pas comment faire !»«
Sur un autre temps, Potter !» répliqua Rogue menaçant. « Et maintenant, vous allez fermer les yeux !»
Harry lui lança un regard féroce avant d'obéir. Il n'aimait pas du tout l'idée de rester là, les yeux fermés face à Rogue, qui pointait sa baguette sur lui.
« Videz votre esprit, Potter !» dit Rogue de sa voix glaciale. « Débarrassez-vous de toute émotion !»
Mais la fureur de Harry continuait de palpiter dans ses veines comme un venin. Se débarrasser de sa colère, c'était à peu près aussi facile que de s'arracher les jambes.
« Vous n'y parvenez pas, Potter! Vous aurez besoin d'une plus grande discipline! Concentrez-vous à présent !»
Harry essaya de se vider l'esprit, de ne penser à rien, de ne se souvenir de rien, de ne rien ressentir.
« Allons-y, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, les Gillymans !»
Un grand dragon noir se cabrait devant lui. Son père et sa mère lui adressaient des signes de la main de l'autre côté d'un miroir enchanté. Cédric Diggory était allongé sur le sol, ses yeux vides fixés sur lui.
« Non !»
Harry était à nouveau tombé à genoux, le visage dans les mains, son cerveau lui faisait mal comme si quelqu'un avait essayé de l'arracher de son crâne.
« Levez-vous !» lança sèchement Rogue. « Levez-vous ! Vous n'essayez pas ! Vous ne faites aucun effort ! Vous me laissez accéder à des souvenirs qui vous font peur ! Vous me donnez des armes !»
Harry se releva, le cœur cognant frénétiquement contre sa poitrine, comme s'il venait vraiment de voir Cédric mort dans le cimetière. Rogue était encore plus pâle que d'habitude, plus en colère aussi, mais certainement pas aussi furieux que Harry.
« Je fais des efforts !» répliqua celui-ci, les dents serrées. « Je vous avais dit de vous débarrasser de toute émotion !»«
Ah oui, eh bien je trouve ça très difficile en ce moment !» gronda Harry.
« Alors, vous deviendrez une proie facile pour le Seigneur des Ténèbres !» dit Rogue avec une sorte de sauvagerie. Les idiots qui portent fièrement leur cœur en bandoulière, qui sont incapables de contrôler leurs émotions, qui se complaisent dans les souvenirs les plus tristes et se laissent facilement provoquer. Les gens faibles, en d'autres termes, n'ont aucune chance de résister à ces pouvoirs.
Il parviendra à pénétrer votre esprit avec une facilité absurde, Potter !»«
Je ne suis pas faible, » répondit Harry à voix basse. La fureur parcourait tout son corps avec une telle force qu'il se sentait prêt à attaquer Rogue à tout moment.
« Alors, prouvez-le ! Maîtrisez-vous !» lança Rogue. « Contrôlez votre colère, disciplinez votre esprit. On va essayer encore une fois. Préparez-vous, les Gillimans !»
Il regardait l'oncle Vernon clouer une planche devant la boîte aux lettres à grands coups de marteau. Une centaine de détraqueurs s'avançaient vers lui sur les rives du lac. Il courait avec Monsieur Wesley le long d'un couloir sans fenêtre. Il s'approchait de la porte noire et lisse au fond du passage. Harry pensait qu'il allait passer par là, mais Monsieur Wesley l'entraînait vers la gauche en direction d'une volée de marches qui descendait.
« Je sais ! Je sais !»
Il était à nouveau à quatre pattes sur le sol. Sa cicatrice le picotait désagréablement. Mais c'était un cri de triomphe qu'il avait lancé. Il se releva et se retrouva devant Rogue qui l'observait sa baguette en l'air. Cette fois-ci, on aurait dit que Rogue avait levé le sortilège avant même que Harry ait eu le temps de le combattre.
« Qu'est-ce qui s'est passé, Potter ? »
demanda-t-il en dévisageant Harry d'un regard intense.
« J'ai vu. Je me suis souvenu, »
répondit Harry d'une voix haletante.
« Je viens de me rendre compte. »
« De vous rendre compte de quoi ?»
interrogea sèchement Rogue. Harry ne répondit pas tout de suite. Frottant sa cicatrice, il savourait encore le moment où il avait enfin compris dans un éclair aveuglant. Depuis des mois, il rêvait d'un couloir sans fenêtre qui menait à une porte verrouillée, sans s'être aperçu qu'il s'agissait d'un endroit bien réel. À présent, après avoir revu ce souvenir, il savait qu'il s'agissait du couloir dans lequel il avait couru avec M. Wesley le 12 août dernier, alors qu'il se rendait en hâte dans la salle du tribunal. Le couloir conduisait au département des mystères, et c'était là également que se trouvait M. Wesley la nuit où le serpent de Voldemort l'avait attaqué. Harry leva les yeux vers Rogue.
« Qu'est-ce qu'il y a au département des mystères ?»«
Qu'avez-vous dit ?»
demanda Rogue à voix basse. Avec une profonde satisfaction, il vit Rogue déconcerté.
« Je vous ai demandé ce qu'il y avait au département des mystères, monsieur, »
répéta Harry.
« Et pourquoi voulez-vous savoir cela ?»
dit Rogue avec lenteur.
« Parce que, »
répondit Harry, guettant sa réaction, « le couloir que j'ai revu à l'instant, celui dont je rêve depuis des mois, je viens de le reconnaître.
C'est celui qui mène au département des mystères. Et je pense que Voldemort veut quelque chose.
Je vous ai déjà dit de ne plus prononcer le nom du Seigneur des Ténèbres.
Ils échangèrent un regard noir. La cicatrice de Harry redevint douloureuse, mais peu lui importait. Rogue semblait nerveux. Lorsqu'il reprit la parole, cependant, il s'efforça d'apparaître à nouveau froid et indifférent.
« Le département des mystères renferme beaucoup de choses, Potter, mais il n'y en a pas beaucoup que vous pourriez comprendre et aucune qui vous concerne. Suis-je assez clair ?»«
Oui, » répondit Harry en continuant de frotter sa cicatrice qui lui faisait de plus en plus mal.
« Vous reviendrez mercredi prochain à la même heure. Nous poursuivrons ce travail. »«
Très bien, » dit Harry. Il avait hâte de sortir du bureau et d'aller retrouver Ron et Hermione.
« Chaque soir, avant de vous endormir, vous devrez faire l'effort de chasser toute émotion. Évacuez ce que vous avez dans la tête, que votre esprit soit vide et paisible, vous comprenez ?»«
Oui, » répondit Harry qui écoutait à peine.
« Et je vous avertis, Potter, je le saurai si vous n'avez pas fait ces exercices. »«
C'est ça, » marmonna Harry. Il ramassa son sac, l'accrocha à son épaule et s'avança à grands pas vers la porte du bureau. En l'ouvrant, il jeta un coup d'œil à Rogue qui lui tournait le dos et repêchait ses propres pensées dans la pancine du bout de sa baguette magique pour les remettre soigneusement dans sa tête. Harry sortit sans un mot, en refermant la porte avec précaution. Sa cicatrice, toujours traversée de douloureux élancements. Il trouva Ron et Hermione à la bibliothèque où ils travaillaient à la nouvelle pile de devoirs qu'avait donné Ombrage.
D'autres élèves, presque tous des cinquièmes années, étaient assis à des tables éclairées par des lampes, le nez collé à leurs livres dans un grattement de plumes fébriles, tandis que derrière les fenêtres à meneaux, le ciel devenait de plus en plus noir. Le seul autre bruit était le couinement que produisait l'une des chaussures de Madame Pince, la bibliothécaire qui rôdait parmi les rayons d'un air menaçant. Quiconque s'avisait de toucher à ses précieux ouvrages ne tardait pas à sentir son souffle dans son cou. Harry tremblait. Sa cicatrice ne cessait de lui faire mal et il se sentait presque fiévreux. Lorsqu'il s'assit en face de Ron et d'Hermione, il aperçut son reflet dans une vitre. Il était très pâle et sa cicatrice semblait plus apparente qu'à l'ordinaire.
« Comment ça s'est passé ?» chuchota Hermione. Puis soudain inquiète, elle ajouta « Ça va, Harry ?»«
Oui, très bien. Enfin, je sais pas, » répondit-il d'un ton impatient en faisant une grimace de douleur.
« Écoutez, je viens de réaliser quelque chose. »
Et il leur raconta ce qu'il venait de voir.
« Tu veux dire ?»
murmura Ron alors que Madame Pince passait devant eux dans un léger couinement.
« Que l'arme, celle que cherche tu sais qui, te trouverait au ministère de la magie ?»«
Au département des mystères, très certainement, » chuchota Harry.
« J'ai vu cette porte quand ton père m'a emmené dans la salle du tribunal, et c'est la même qu'il gardait quand le serpent l'a mordu. »
Hermione laissa échapper un long et profond soupir.
« Évidemment, »
souffla-t-elle.
« Et évidemment quoi ?» dit Ron d'un ton agacé. « Ron réfléchit. Sturgis Podmore a essayé de forcer une porte au ministère de la magie. C'était sûrement celle-là, ça ne peut pas être une simple coïncidence. »
« Et comment fait-il que Sturgis ait tenté de forcer la porte que mon père gardait alors qu'il est de notre côté ?» fit remarquer Ron.
« J'en sais rien, »
avoua Hermione.
« C'est un peu étrange. »«
Qu'est-ce qu'il y a au département des mystères ?» demanda Harry à Ron. « Est-ce que ton père t'en a déjà parlé ?»«
Tout ce que je sais, c'est que les gens qui y travaillent sont surnommés les langues de plomb, » répondit Ron en fronçant les sourcils. « Parce que personne ne semble savoir vraiment ce qu'ils font. C'est un endroit bizarre pour cacher une arme. »
« Pas bizarre du tout. Très logique, au contraire, »
objecta Hermione.
« Il doit s'agir de quelque chose de top secret sur lequel a travaillé le ministère. Harry, tu es sûr que ça va ?»
Harry venait de frotter sa cicatrice de ses deux mains comme pour la rendre plus lisse.
« Oui, très bien, »
dit-il en reposant sur la table ses mains tremblantes.
« Je me sens simplement un peu... Je n'aime pas beaucoup l'occlumency. » N'importe qui se sentirait secoué si quelqu'un essayait sans arrêt d'entrer dans sa tête,
dit Hermione d'un ton compatissant.
Venez, on va retourner dans la salle commune, on sera mieux installés.
Mais la salle commune était bondée et retentissait d'éclats de rire et de hurlements surexcités. Fred et George étaient en train de faire une démonstration de leur dernière invention en matière de farce et attrape.
Le chapeau sans tête!
Annonça George, tandis que Fred agitait devant les élèves un chapeau pointu orné d'une grosse plume rose.
« Deux gagnons pièces ! Regardez bien ce que va faire Fred !
Vas-y ! »
Avec un grand sourire, Fred enfonça le chapeau sur sa tête. Pendant un instant, il eut l'air simplement stupide, puis tout à coup, le chapeau et sa tête disparurent en même temps. Tout le monde hurla de rire, à part quelques filles qui s'étaient mises à crier de terreur.
« Et hop ! On l'enlève ! »
s'exclama George. Pendant un moment, la main de Fred tâtonna dans ce qui semblait être le vide au-dessus de son épaule, puis sa tête réapparut lorsqu'il enleva d'un grand geste le chapeau à la plume rose.
« Comment fonctionnent ces chapeaux ?»
se demanda Hermione à haute voix. Distraite de ses devoirs, elle regardait Fred et George.
« De toute évidence, il s'agit d'un sortilège d'invisibilité, mais c'est assez habile d'avoir réussi à en étendre le champ au-delà de l'objet ensorcelé. » J'imagine que le sortilège ne doit pas durer très longtemps.
Harry ne répondit pas. Il se sentait mal. Je ferai ça demain, marmonna-t-il en remettant dans son sac les livres qu'il venait tout juste d'en sortir.
Note-le dans ton planning de devoirs, lui conseilla Hermione. Comme ça, tu l'oublieras pas.
Harry échangea un regard avec Ron, puis fouilla dans son sac et en sortit le planning qu'il ouvrit timidement.
Ne remets pas à demain, espèce de bon à rien.
Lança le carnet d'un ton réprobateur pendant que Harry notait le devoir à faire pour Ombrage.
Hermione paraissait enchantée. « Je crois que je vais aller me coucher, »
dit Harry. Il rangea le planning dans son sac en se promettant de le jeter au feu à la première occasion. Puis il traversa la salle commune, évitant Georges qui essaya de le coiffer d'un chapeau sans tête, et se réfugia dans la fraîcheur paisible de l'escalier de pierre. Il se sentait de nouveau malade, comme la nuit où il avait eu la vision du serpent, mais il pensait qu'il lui suffirait de s'allonger un moment pour aller mieux. Il avait ouvert la porte du dortoir et s'était avancé d'un pas à l'intérieur lorsqu'il éprouva une douleur si aiguë qu'il eut l'impression d'avoir la tête coupée en deux. Il ne savait plus où il était, s'il était couché ou debout, ne se souvenait même plus de son nom. Un rire de dément résonnait dans sa tête. Il ressentait un bonheur qu'il n'avait pas connu depuis très longtemps, jubilant, extatique, triomphant. Une chose absolument merveilleuse venait de se produire. « Harry ! Harry !»
Quelqu'un l'avait frappé au visage. Le rire démentiel fut ponctué d'un cri de douleur. La sensation de bonheur s'échappait, mais le rire persistait. Il ouvrit les yeux et s'aperçut alors que ce rire déchaîné sortait de sa propre bouche. Dès qu'il s'en fut rendu compte, le rire s'évanouit. Harry était allongé sur le sol, la respiration précipitée, les yeux fixés au plafond, sa cicatrice traversée d'horribles douleurs. Ron s'était penché sur lui, l'air très inquiet.
« Qu'est-ce qui s'est passé ? »
demanda-t-il.
« Je sais pas, »
haleta Harry en se redressant.
« Il est vraiment heureux. Très, très, très heureux. Tu sais qui est heureux ? Il s'est passé quelque chose de très bien pour lui, »
marmonna Harry. Il tremblait autant qu'après avoir vu le serpent attaquer Monsieur Wesley, et il se sentait pris de nausée.
Quelque chose qu'il espérait.
Les mots sortirent de ses lèvres comme cela s'était produit dans les vestiaires de Gryffondor, quand il avait eu la sensation qu'un étranger parlait par sa bouche, et il savait qu'il exprimait la vérité. Harry respira profondément à plusieurs reprises pour s'empêcher de vomir sur Ron. Il était content que Dean et Simus ne soient pas là pour le regarder cette fois.
« Hermione m'a dit de monter voir comment tu allais, »
murmura Ron en l'aidant à se relever.
« Elle dit que tes défenses doivent être affaiblies après tout ce que Rogue t'a fait subir en bricolant dans ton cerveau. Mais je pense quand même que ça te sera utile à long terme, non ?»
Il regarda Harry d'un air sceptique, tandis qu'il l'aidait à regagner son lit. Harry hocha la tête sans conviction et s'effondra sur ses oreillers. Il était tombé si souvent par terre ces dernières heures qu'il avait mal partout, et sa cicatrice restait douloureuse. Il ne put s'empêcher de penser que sa première incursion dans le domaine de l'occlumensie avait affaibli sa résistance mentale au lieu de la renforcer, et il se demanda avec un sentiment d'angoisse quel était l'événement qui avait rendu Lord Voldemort plus heureux qu'il ne l'avait jamais été depuis 14 ans.